Merci Lionel et on vous retrouve bien sûr dans une heure. Ce soir, on remonte aux sources de Depeche Mode, souvent oubliés et méconnus, mais d'abord honneur à nos héros de la semaine, au temps lointain où ils étaient tout gamins. C'est pas récent, c'était l'année de parution du deuxième 45 tours de Depeche Mode, New Life. C'était alors un tout jeune groupe, à peine 20 ans d'âge, hein, moyen, parmi une poignée d'autres qui s'engouffraient dans la Grande-Bretagne d'alors, dans une nouvelle brèche, ce que les critiques britanniques appelaient alors la synth-pop, hein, c'est-à-dire la pop synthétique. Alors le principe était simple, vous veniez d'une banlieue grise ou d'une ville industrielle sinistrée, vous aviez à peine 18 ans, vous étiez au chômage, ou alors vous aviez un vague temps partiel à faire de la paperasse dans une agence bancaire ou une compagnie d'assurance, et ce qui était d'ailleurs le cas des gamins de Depeche Mode, hein, ils avaient grandi à Basildon, c'est une banlieue industrielle qui est située dans l'Essex, hein, à l'est de Londres, et vous vous lanciez. Alors c'était une immense révolution démocratique qui se soulevait et qui faisait suite à une autre, la plus importante, celle du punk rock. Alors c'est vrai, pour les premiers punks, hein, inutile de savoir jouer de la guitare comme Jimi Hendrix ou de chanter comme Mick Jagger, tout le monde pouvait créer son groupe punk au nom le plus débile possible. Alors vous achetiez des guitares, batteries, amplis, évidemment bon marché d'occasion, et vous vous lanciez. Mais, très vite, un an et demi plus tard, il y avait mieux. Les premiers synthétiseurs abordables comme le Korg M500 ou le Roland Jupiter 4. Inutile de répéter des semaines ou des mois dans des caves, vous installiez votre clavier dans votre chambre d'ado ou la cuisine de chez vos parents, vous plaquiez 3 ou 4 accords, vous pianotiez une petite mélodie, vous écriviez ce qui vous passait par la tête, et voilà, c'était gagné, l'affaire était dans le sac. C'était au fond le punk rock, mais poussé au bout de sa logique, c'est-à-dire n'importe qui peut s'y mettre. Inutile d'acquérir un savoir-faire, même rudimentaire, d'instrumentiste, il suffisait de savoir compter les mesures et de programmer des bruits. Un nom ridicule, une coupe de cheveux extravagante, des complètes des années 50 récupérées chez un fripier, une petite ritournelle, et vous vous lanciez. Alors il faut rappeler quand même l'hostilité que ça a suscité à l'époque chez pas mal d'amateurs de rock. Alors déjà, ceux qui aimaient les Stones ou Pink Floyd, souvent, avaient crié « Vade rétro » en découvrant les Sex Pistols. Mais alors là, même pour ceux qui ne juraient que par The Clash, la synth-pop et des groupes comme Depeche Mode, c'était trop. On les appelait les garçons coiffeurs, on les trouvait gentillets, fades, proprets. Ah, c'était l'insulte ultime, traître à la cause du rock'n'roll. Alors ce qui est vrai, c'est que si le rock'n'roll, ça voulait dire mettre un perfecto, porter des lunettes noires dans le métro et faire la gueule sur les photos, eh bien, ces nouveaux venus trouvaient ça tocard et ils avaient bien raison. En revanche, si le rock'n'roll, c'était faire des chansons qui font danser les gamins et leur donnent l'impression qu'ils sont les maîtres du monde, eh bien, ces nouveaux venus, ils étaient en plein dedans. Alors, le premier compositeur des chansons de Depeche Mode, il s'appelait Vince Clarke. Alors, son inspiration, clairement, c'était les mélodies du début des années 60, les comptines de Phil Spector pour les Ronettes, des groupes comme ça, ou encore le versant rock'n'roll, 10 ans plus tard, du groupe ABBA. Il existe, il suffit d'écouter des chansons du début, comme Ring Ring. Alors, Vince Clarke a quitté Depeche Mode très vite, fin 1981, et avant ça, il a eu composé la totalité de leur premier album, qui contient leurs 3 premiers tubes, dont New Life, qu'on vient d'entendre, et Just Can't Get Enough, que le groupe d'ailleurs joue encore sur scène. Vince Clarke a ensuite créé un excellent duo avec une jeune chanteuse de blues qui s'appelait Yazoo, puis le duo Erasure, pour qui il a réalisé de superbes chansons aux mélodies classiques. Alors je vous disais, en cette période très inventive, en gros entre 79 et 81, eh bien pas mal de très jeunes groupes visionnaires qui ont inventé un nouveau langage musical. Et parmi eux, il y avait une formation qui venait de Liverpool et qui s'appelait bizarrement Dalek I Love You. Alors bon, c'était pas plus bête que Depeche Mode. Et ce groupe a signé en 79, c'était tôt, un classique oublié de l'électropop naissante, un album qui s'appelait Compass. Ça s'écrit comme compas avec 2 S, ça veut dire boussole. Et ce titre, The World, était un des meilleurs de cet album. We'll be right back.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Electricity, c'était le duo Orchestral Maneuvers in the Dark, originaire comme Dalek I Love You, de la région de Liverpool. Et le chanteur de ce duo, Andy McCluskey, avait d'ailleurs fait ses débuts au sein de ce groupe bien oublié. Alors beaucoup connaissent Orchestral Maneuvers in the Dark à OMD grâce à son tube de l'année 1980, Enola Gay. Mais en 79, l'année d'avant, OMD avait enregistré ce premier titre, Electricity, publié en 45 tours. Alors c'est une chanson qui a été, on pourrait dire, l'acte fondateur de ce qu'on a appelé la synth-pop, on dit plutôt électro-pop hein, aujourd'hui. Une mélodie qui, vous l'avez entendu, se baladait quelque part entre les comptines de Phil Spector et le groupe allemand Kraftwerk. Alors dans un premier temps, le duo avait enregistré sa maquette avec une vieille basse un piano électrique et un orgue, le tout représentant une valeur de 75 livres sterling de l'époque. L'enregistrement est alors tombé entre les mains d'un certain Tony Wilson. Alors qui était-il ? Eh bien si vous voulez, c'était une sorte de Thierry Ardisson anglais, doublé d'un mécène. En effet, basé à Manchester, Wilson investissait une bonne partie de l'argent qu'il gagnait comme présentateur à la télévision pour faire quoi ? Bah pour financer l'avant-garde musicale de sa ville et de sa région. Il a ainsi créé une petite compagnie de disques, Factory, pas seulement compagnie de disques d'ailleurs, c'était à la source de beaucoup d'entreprises artistiques. En tout cas, Factory allait révéler le groupe Joy Division. Alors, Wilson a l'idée de unir les deux musiciens de Orchestral Maneuvers in the Dark avec un de ses amis, un musicien doublé d'un visionnaire du son qui s'appelle Martin Hannett, et c'est l'homme qui justement allait marquer de son empreinte les enregistrements de Joy Division. Et c'est ainsi que naît en 79 le premier succès, enfin succès relatif, ça reste relativement underground, de l'électropop au Royaume-Uni. J'ai d'ailleurs un souvenir personnel très précis. L'année suivante, en 1980, Orchestral Maneuvers in the Dark a donné un concert au Bain-Douche à Paris. Et quand ils ont joué Electricity, ça a été la folie, tout le monde s'est mis à danser, voilà, c'était vraiment très fébrile. Alors, voilà, pris, secoué par la foule, je me retourne, et qui je vois ? Jacques Attali, avec ses grosses lunettes, secoué par une espèce de jerk spasmodique. Voilà, toute une époque. Autre chose maintenant. Alors hier, je vous ai parlé du londonien Daniel Miller. C'est lui qui a découvert Depeche Mode et qui a façonné le son du groupe. D'ailleurs, il a co-réalisé tous les albums du groupe dans les années 80. Étudiant en cinéma, formé au son, passionné par le groupe Kraftwerk, j'en ai parlé, Miller a créé à la fin des années 70 à Londres une compagnie de disques qui s'appelle Mute. C'est elle qui allait lancer, alors parmi d'autres, Nick Cave et les Bad Seeds, et voilà plus tard Moby, et plus proche de nous encore, Goldfrapp. Mais Daniel Miller est aussi un musicien, enfin un drôle de musicien, mais un musicien quand même, puisque sous le nom de The Normal, il a publié dès 1978 un 45 tours très étrange avec deux chansons dont l'une, enfin les deux d'ailleurs, ne ressemble à rien de connu. Celle que je vous propose s'appelle Warm Leatherette, ça veut dire Sky Show. C'est une chanson d'ailleurs qui a été reprise par Grace Jones quelques années plus tard. Alors Miller a fait ça chez lui avec deux magnétophones Revox et un synthétiseur Korg qu'il a acheté aux États-Unis qui lui a coûté $150. C'est une chanson que lui a inspiré un roman de l'écrivain J.G. Ballard, Crash, hein, dont David Cronenberg a tiré un film célèbre. C'est le récit d'un cauchemar, c'est un couple qui vient d'avoir un accident de voiture et l'homme imagine alors qu'ils vont faire l'amour sur le Sky Show de la banquette arrière. Daniel Miller, alias The Normal, dans Warm Leatherette.
Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Warm Leatherette. 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 Melts on your burning flesh. You can see your reflection in the luminescent dash. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm
in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before you die. On warm leatherette. On warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Join.
Cars, un des titres les plus connus d'un musicien qu'on oublie trop souvent quand on parle des débuts de l'électropop. Son nom, c'est Gary Numan, écrit avec un U-N-U-M-A-N, et la chanson remonte à l'année 79. Alors Gary Numan, bon, c'était pas son vrai nom, était un banlieusard londonien qui avait suivi avec succès une formation de pilote de chasse. Il est même devenu un as de la voltige aérienne, il a aussi fait un tour du monde dans un Cessna, enfin des trucs comme ça. En tout cas, en ce qui concerne la musique, il adorait à égalité Kraftwerk et David Bowie, et il a été une superstar dans la Grande-Bretagne des années 79-81, même si son succès n'a pas traversé la Manche. Gary Numan donnait des spectacles où il apparaissait, il sortait du cœur d'une pyramide futuriste, vêtu d'une combinaison argentée, hein, si vous voulez, c'était quelque part entre Jean-Michel Jarre et Earth, Wind and Fire, et il s'était fait une allure d'androïde déshumanisé, une sorte de robot sorti d'un film un peu rétro de science-fiction. Alors il chantait, vous l'avez entendu, d'une voix un peu nasillarde. Alors bon, bien sûr, il n'a pas eu le succès d'un Bowie, hein, loin s'en faut, je veux dire sur un plan international, mais il a fait l'objet, dès les années 90, d'une immense reconnaissance aux États-Unis chez les musiciens de house et de techno, qui l'ont beaucoup, beaucoup cité et échantillonné. Et sa réputation est d'ailleurs bien plus grande aujourd'hui aux États-Unis qu'en Europe, où tout de même, un de ceux qui lui ont rendu hommage il n'y a pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années, eh bien, c'est Damon Albarn de Blur et Gorillaz. Tout de suite, un nom qu'on a hélas oublié, c'est l'anglais Fat Gadget, hein, de son vrai nom Frank Tovey, qui nous a hélas quitté il y a une quinzaine d'années. Fat Gadget a été la toute première découverte de Daniel Miller pour sa jeune compagnie Mute, hein, celle qui, je vous le disais, a révélé Depeche Mode. Alors, Frank Tovey se destinait initialement au théâtre et au mime, donc pas franchement à la musique, et il avait bricolé seul chez lui de la musique avec un magnétophone et une boîte à rythme, ainsi qu'un petit synthétiseur Korg, alors qu'il n'avait strictement aucune aptitude musicale. Il a ensuite envoyé une cassette à Daniel Miller, ça l'a tellement séduit que voilà, Miller l'a publié et en a fait sa première référence chez Mute. Collapsing New People, c'est un titre de 1983 signé Fat Gadget qui a beaucoup influencé l'évolution de Depeche Mode.
Stay clear of the
Kebab Träume, rêve de kebab, j'imagine, un titre de 1980, signé par le duo allemand Deutsch-Amerikanische Freundschaft, l'amitié germano-américaine, un nom évidemment grinçant. Un duo chanteur, joueur de synthétiseur, très influent dans ces années-là, le début des années 80. On les appelait voilà DAF, c'est un duo qui a été formé à Düsseldorf. Le chanteur du duo, Gabi Delgado Lopez, était un punk, un des très rares punks de cette ville. Alors on le remarquait, ce fils de travailleur immigré espagnol. Et il avait rencontré dans cette ville Robert Girl, qui était un pianiste et compositeur, qui était lui formé à Munich, à la musique classique, et qui était alors plutôt attiré par le free jazz. Enfin, vous savez, le punk rock, ça changeait le destin des gens. Alors punk, Gabi, il était dans son comportement frénétique sur scène, tandis que Girl, lui, était resté planté droit comme un piquet devant ses machines. Il y avait aussi cette dualité chez Suicide ainsi que chez Soft Cell. C'est un peu la loi du genre. Alors on va rester avec une moitié de DAF, Robert Girl, et c'est sa voix à lui qu'on va entendre dans une chanson qui s'appelle Darling Don't Leave Me, qui est extraite d'un album solo qu'il a publié en 1984 et qui s'appelle Night Full of Tension. Alors il s'agit d'un excellent duo avec la chanteuse écossaise bien connue Annie Lennox, à moitié du duo Eurythmics. Vous savez, ce sont les auteurs du fameux Sweet Dreams Are Made of This. Voilà, c'est Robert Girl et Annie Lennox dans Darling Don't Leave Me.
Very Good Trip, Mishka Assayas.
Still Smiling, une obscurité alors bien oubliée des années 80, 1985 précisément. Il s'agissait d'un duo londonien d'électropop qui s'appelait I Start Counting et la chanson avait pour titre Still Smiling. Je l'ai dit, elle est sortie en 45 tours chez Mute, la compagnie fondée par Daniel Miller qui publiait, comme je vous le rappelais, les enregistrements de Depeche Mode. Alors il y a eu durant cette période quantité de productions de ce style. Certaines sont restées underground, d'autres ont touché le grand public. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs à relever, c'est que certains musiciens ont fait le chemin de l'underground à l'ultra populaire alors qu'on n'aurait jamais imaginé que leur musique devienne commerciale. Alors, prenez le cas d'un groupe anglais de la période qui s'appelait The Human League. D'ailleurs, il existe toujours. Il venait de la ville de Sheffield, une ville du Nord qui a été le creuset de la musique dite industrielle. Alors au début, The Human League avait une visée très expérimentale, carrément avant-gardiste. C'est un groupe qui cherchait surtout à créer de nouveaux sons, de nouveaux bruits, on pourrait dire. Et d'ailleurs, ses concerts étaient plus des performances qu'autre chose. Et puis, peu à peu, The Human League s'est complètement transformé. Le chanteur Phil Hockey a eu une lubie. Il a rencontré en discothèque deux adolescents. Bon, jusque-là, c'est très normal. Mais il les a convaincus d'intégrer son groupe, qui est devenu, si vous voulez, une sorte de ABBA électropop. Et The Human League, à ce moment-là, a commencé à enregistrer des chansons très, très populaires, de variété, quoi, et qui sont restés des classiques comme ce tube très dansant de 1981, Don't You Want Me, qui est le dialogue assez douloureux entre un homme riche qui a sorti une jeune fille de sa condition, elle était serveuse dans un bar à cocktail, et cet homme doit maintenant admettre que cette jeune femme va le quitter pour voler de ses propres ailes, et évidemment ça lui fait très mal. The Human League en 81, Don't You Want Me.
I shook you up.
Don't You Want Me, c'était The Human League en 1981, un tube au Royaume-Uni, pas tellement en France, hein, c'est un groupe qui n'était pas tenu en très haute estime, injustement. Pour se quitter, une voix qu'on a, alors elle, totalement oubliée, et c'est vraiment dommage, c'est un chanteur écossais du nom de Thomas Lear, L2ER. Il a été un des pionniers de l'électropop britannique avec son compère Robert Rantle, qui est aujourd'hui défunt. Ils ont enregistré en 79, en duo, un album qui s'appelle The Bridge, et qui a eu une très grande influence underground. Alors aujourd'hui, ça paraît naturel de voir des artistes circuler entre l'underground et le grand public. À l'époque, c'était rare et inattendu, et ça se faisait de façon encore tâtonnante. Une très belle chanson de Thomas Lear en solo, All About You, ça remonte à l'année 1982.
It's all about you.
Et voilà, cette semaine électropop autour de Depeche Mode s'achève avec la belle voix de Thomas Lear dans un titre de 1982, All About You. Il me reste à vous informer que mercredi 29 mars, je serai en direct sur France Inter de 21h à 23h pour une soirée en compagnie du chanteur soul Lee Fields et des rappeurs marseillais de IAM, réunis pour un concert exceptionnel au studio 105. Alors la billetterie est ouverte et vous pouvez réserver vos places sur le site de Radio France, www.maisondelaradio.fr. Voilà, il me reste à remercier Benjamin Riquet qui a réalisé l'émission, David Federman à la technique, Romain Couturier qui a tout numérisé à la discothèque de Radio France, Zora Ben Smaili, Valérie Bourg et Tapis Rouge pour Laurent Goumard comme tous les soirs.